Le journal, bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Comme un sentiment de malaise à la convention annuelle de la NRA, le lobby des armes américains qui s'ouvre ce soir dans le même état que la tuerie d'Uvalde il y a 3 jours. Plusieurs participants se sont désistés, des opposants manifestent devant, nous sommes sur place. Faute de pouvoir agir encore, période de réserve oblige, Elisabeth Borne répète les urgences de son gouvernement. Pouvoir d'achat, climat, santé, à presque 2 semaines des législatives, les candidats ratissent leur circonscription. Et en ce week-end prolongé, les touristes étrangers sont de retour en France, vous l'entendrez. L'actualité, c'est aussi l'Ukraine et la prise stratégique d'une ville proche du Donbass. Le tennis, la française Diane Paris sur les courts, le festival de Cannes, dernière ligne droite. Et le choix culture dans les coulisses de la cité de la gastronomie à Dijon. Et au téléphone sonne, Frédéric.
Alors ce soir, on va s'intéresser au football. Et quelle actualité riche cette semaine et ce week-end. Kylian Mbappé reste au PSG. La finale demain au Stade de France de la Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool. Et nous sommes à 6 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Doit-on tout accepter du foot? On en débat avec nos invités. On attend vos appels 01 45 24 7000.
Il n'y a que quelques heures de route entre l'école d'Uvalde, endeuillée par une effroyable tuerie, et Houston, au Texas, où s'ouvre ce soir la grand-messe du lobby des armes, la NRA. 3 ans qu'elle ne s'était pas tenue à cause de la pandémie. Donald Trump y est annoncé dans la soirée, mais déjà, des manifestants sont rassemblés pour faire pression sur les congressistes, réclamer que le pays bouge sur le port d'armes. Sébastien Paour, vous venez d'arriver sur place depuis Uvalde, et vous êtes parmi eux.
Oui, parmi ces manifestants qui sont quelques centaines devant le centre de convention de Houston, en plein centre de la ville, qui est frappé d'un grand logo NRA, National Rifle Association, en référence à ce lobby des armes. Une tête de bœuf énorme frappée d'une étoile en son centre, et avec le slogan qui annonce que depuis 1871, fièrement, la NRA défend les armes, et les manifestants sont de l'autre côté, effectivement, sur le trottoir avec nous, avec leurs pancartes. On crie « Baby Killers » en référence évidemment aux 21 morts, dont 19 enfants de l'école d'Uvalde. Et pour marquer plus encore les esprits, une véritable petite procession a eu lieu tout à l'heure sur ce trottoir. Des mères de famille et des enfants portaient un petit cercueil de la taille d'un enfant. Elles tenaient notamment une pancarte où était écrit « Pas davantage d'assassinats d'enfants ». On lit aussi sur les pancartes Ban all guns, interdisez toutes les armes. On interpelle le sénateur conservateur de cet État, Ted Cruz. Ted, ton portefeuille est plein de sang. On entend enough is enough, assez c'est assez. Les armes tuent, légiférer. Évidemment, les gens voudraient qu'on interdise les armes automatiques comme celle qui a été utilisée à Uvalde. D'ailleurs, un monsieur, tiens, sur une petite feuille, juste un dessin de cette arme entourée d'un cercle rouge, sans aucun autre mot.
Et parmi les manifestants qui se trouvent autour de vous, Sébastien, Thomas Harms a rencontré Ripken Davis.
Je suis ici aujourd'hui car la NRA a décidé de faire son rassemblement après une fusillade de masse où 19 enfants innocents ont été tués. Un adolescent de 18 ans ne devrait pas pouvoir se servir d'une arme à feu. Vous ne pouvez pas boire de l'alcool légalement, mais vous pouvez avoir une arme. On doit pouvoir aller au cinéma sans se faire tirer dessus. Aller à l'école sans s'inquiéter de savoir est-ce que je vais me faire tirer dessus aujourd'hui. Est-ce que je vais me faire tuer ?
Voilà. Parole de manifestants ce soir devant le congrès de la NRA, où il y a un sentiment de malaise aussi du côté des participants. Sébastien, le fabricant de l'arme utilisée par le tueur a renoncé à venir à la convention, et ce n'est pas le seul désistement.
Non, on peut noter que le gouverneur Greg Abbott, conservateur lui aussi évidemment de cet état, qui devait intervenir devant les congressistes qui sont en train d'arriver. L'Assemblée générale commence tout juste en ce vendredi mi-journée ici. Greg Abbott a décidé de ne pas être présent physiquement ici. Il a enregistré un message vidéo qui sera diffusé tout à l'heure, et il reste à Uvalde, où vous le savez, le président Biden viendra dimanche matin avec son épouse. D'autres probablement sont un peu gênés. Vous avez cité le fabricant de la R15, cette arme automatique utilisée à Uvalde. Manifestement, certains néanmoins viennent ici. Les manifestants, à côté de nous en tout cas, auraient voulu que cette assemblée générale de la NRA, du lobby des armes, soit annulée. Ils demandent qu'on interdise cette convention. Mais le maire aussi, le maire démocrate de Houston, l'a souhaité. Mais elle a bien lieu. Elle se tient devant nous, devant les manifestants.
Sébastien Paour en direct de Houston. La NRA qui revendique 5 millions de membres a bien dénoncé l'acte d'un criminel isolé et dérangé, mais se dédouane de toute responsabilité dans la tuerie sur le rôle des agents de police qui ont attendu l'arrivée de la police aux frontières pour entrer dans l'école il y a 3 jours. Le directeur du département de la sécurité publique du Texas reconnaît ce soir que la police a pris une mauvaise décision en différant son intervention. Les États-Unis incapables d'endiguer ces fusillades meurtrières en milieu scolaire et les drames liés aux armes qui sont d'ailleurs devenus dans le pays la principale cause de décès chez les jeunes Américains devant les accidents de la route. En 2020, plus de 4300 enfants et adolescents sont morts de blessures causées par des armes à feu selon la dernière étude des autorités sanitaires.
19h06 sur France Inter, la suite du journal d'Hélène Philly. Et en Ukraine, les Russes affirment s'être emparés d'une ville de clé pour la conquête totale du Donbass.
Cette région que des séparatistes pro-russes contrôlent partiellement depuis 2014 et qui est désormais l'objectif prioritaire des Russes. La prise de la ville de Liman, revendiquée aujourd'hui, est stratégique dans cette offensive. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Hélène.
Car c'est un carrefour qui ouvre la route vers les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk.
Oui, la ville de Liman, qui comptait avant la guerre plus de 20 000 habitants, se trouve à une centaine de kilomètres à l'ouest de la frontière russe, ce qui montre l'avancée lente mais certaine des troupes de Vladimir Poutine dans cette région. Annoncée par les séparatistes pro-russes, la prise de cette localité n'est pas vérifiable pour l'instant mais ne fait guère de doute. La progression des troupes russes pourrait faciliter l'encerclement de deux agglomérations ukrainiennes importantes situées plus à l'est, Lysychansk et Severodonetsk. Cette dernière étant déjà détruite à 60% selon le chef local de l'administration civile et militaire. Avant-hier, le gouverneur de la région de Lugansk, où se trouvent ces deux villes, estimait que 95% de la région était désormais sous contrôle russe. Une situation qui fait craindre pour deux autres agglomérations, Sloviansk et Kramatorsk, au sud de cette petite localité de Liman, tombée aux mains des Russes. Les bombardements massifs ordonnés par le Kremlin font vivre un enfer aux civils de la région qui manquent d'eau et de nourriture. Ce pilonnage finit à certains endroits par briser la résistance ukrainienne, mais selon les informations du Pentagone, les Russes peuvent gagner du terrain un jour et en perdre le lendemain.
Une dizaine de personnes ont été tuées aujourd'hui dans une frappe sur une installation militaire de Dniepro, grande ville industrielle du centre-est. Le conflit en Ukraine et la Pologne en première ligne, parce que pays voisin, parce qu'il accueille pas moins de la moitié des 6 millions de réfugiés ukrainiens. Un engagement salué et soutenu par l'Union européenne qui a relégué au second plan les tensions récentes sur l'état de droit. Varsovie envoie un nouveau signal aujourd'hui en supprimant la chambre disciplinaire des juges. Y voyant un moyen, Bruxelles avait bloqué le versement au pays des fonds du plan de relance européen. Y voyant un moyen de sanctionner des juges trop critiques. Sarah Bakaloglou est à Varsovie.
Le projet de loi prévoit notamment de liquider la chambre disciplinaire controversée, mais en créant à la place une nouvelle instance, la chambre de responsabilité professionnelle. Des changements de façade donc selon l'opposition et les défenseurs de l'état de droit. Un des problèmes majeurs étant le système de nomination des juges, réformé par le parti au pouvoir et depuis accusé d'être politisé. Mais avec ce signal politique envoyé à Bruxelles, Varsovie espère recevoir enfin les aides européennes. Le président Duda avait dit vouloir mettre fin à un conflit de longue date avec l'UE, cependant bien plus large que cette question de la chambre disciplinaire. Rappelons que la Pologne a refusé de se soumettre à certaines décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et s'est donc vu infliger des amendes. Par ailleurs, elle a remis en cause l'an dernier la primauté du droit européen. Ce signal de la Pologne sera-t-il suffisant pour convaincre Bruxelles? La Commission européenne avait imposé 3 conditions pour approuver le plan de relance polonais, le démantèlement de la chambre disciplinaire, la réforme du régime disciplinaire et la réintégration des juges illégalement révoqués. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est attendue à Varsovie jeudi prochain. Le projet de loi, lui, doit être maintenant présenté devant le Sénat. Varsovie, Sarah Bakaloglou, France Inter.
C'est la première fois que les puissances industrielles du G7 se fixent un tel objectif, décarboner la majorité de leur secteur électrique d'ici à 2035 et mettre fin à tout financement international des projets liés aux énergies fossiles dès cette année. Déclaration publiée à l'issue d'une réunion des ministres du climat et de l'énergie à Berlin.
Le climat qui fait partie des trois priorités de la nouvelle première ministre pour son gouvernement.
Réunion de 2 heures aujourd'hui avec les membres du gouvernement à Matignon, au terme desquels Elisabeth Borne a fixé 3 urgences. Le climat, vous l'avez dit, la santé et le pouvoir d'achat, la priorité des priorités.
Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat et nous sommes convenus qu'il ne devait y avoir ni oublié ni angle mort. Outre les retraités, les salariés, les indépendants, les agents publics, j'ai demandé à mes ministres d'avoir une attention particulière pour les étudiants.
Centrale question du pouvoir d'achat à presque 2 semaines du premier tour des législatives. Aucun parti ne compte se laisser distancer. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Le Rassemblement National a passé la consigne à tous ses candidats de mettre le paquet sur le terrain ce week-end.
Oui, sur les marchés, dans les foires, les candidats RN ce week-end ont effectivement reçu l'ordre de ne parler que de pouvoir d'achat et de rappeler aux électeurs par tous les moyens possibles les propositions de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, dont la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, la taxation exceptionnelle des pétroliers, le doublement des allocations pour les familles monoparentales ou encore l'exonération de l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes de moins de 30 ans. Pour la direction du Rassemblement National, l'objectif affiché est de faire pression sur l'exécutif, dénoncer aussi son inaction alors que son projet de loi annoncé sur le pouvoir d'achat ne sera examiné qu'après les législatives. Il s'agit surtout, évidemment, stratégiquement, de garder la main sur un sujet que le parti a réussi à grandement préempter ces derniers mois, mais sur lequel, effectivement, le gouvernement ne compte plus se laisser distancer.
Et n'oubliez pas, la carte des 100 circonscriptions à suivre est à retrouver sur franceinter.fr. Ce tragique accident dans les montagnes du sud-ouest de la Suisse, la chute de gros blocs de glace, a tué 2 alpinistes, une Française et un Espagnol, alors qu'ils se trouvaient à 3400 mètres d'altitude en pleine ascension du Grand Combin. 9 autres personnes sont blessées. Un week-end prolongé en France qui voit le retour des touristes étrangers, en Lorraine notamment. Nino Glouy n'a pas eu de mal à les trouver sur la place Stanislas de Nancy.
Carte de la ville dans une main, casquette sur la tête, Kirt et Barbara, venus de Belgique, sont prêts à découvrir Nancy.
On aime beaucoup l'architecture, la nourriture, la région aussi. On est allé à Toul, on y a bu du très bon vin.
C'est le premier voyage de Maike et Marie hors d'Allemagne depuis le Covid.
J'ai toujours voulu venir à Nancy, ça paraissait être le bon moment. J'en ai beaucoup entendu parler, j'avais vu des photos et j'aime beaucoup.
Au pied de la statue de Stanislas, ce groupe de retraités allemands écoute attentivement son guide, Michael Schwing.
Exceptionnellement, on est venu pour 3 jours. Il y a tellement de choses à voir ici. Nancy ne se limite pas à la place Stanislas. Comment vous trouvez Nancy ?
Wundervoll. Formidable.
Aux terrasses de la place, on parle aussi anglais, flamand et même italien. Les touristes étrangers sont bien de retour chez Jean-Baptiste Faux, le directeur du Grand Café Foix.
Effectivement, on a beaucoup de touristes en ce moment, des pays autour, allemands, hollandais, belges. On attendait ça avec impatience. On va pas se mentir, on est vraiment dans une démarche positive pour cette année, en tout cas, et pour cette saison.
Avant la crise sanitaire, 1 touriste sur 5 à Nancy venait de l'étranger.
Un reportage signé France Bleu Lorraine.
Direction Roland-Garros, la terre battue, et la Française Diane Paris s'est inclinée.
Oui, c'était elle qui, avec Léolia, Jean-Jean, Gilles Simon et Hugo Gaston, avait ravivé les couleurs tricolores ces derniers jours. Mais elle vient, en effet, d'être battue par l'Américaine Sloane Stephens. Jérôme Val.
Exactement, en 2 petits sets, malheureusement pour la jeune Française de 19 ans, 6-2, 6-3, très crispée, peut-être impressionnée aussi pour son premier, troisième tour, ici sur le central de Roland-Garros, et elle n'a rien pu faire face à l'expérience de Sloane Stephens. On a cru peut-être en fin de deuxième manche qu'elle avait le sursaut pour aller, pourquoi pas, la titiller un peu plus. Elle a sauvé 3 balles de match dans cette rencontre, mais la quatrième a été la bonne pour l'Américaine, et c'est donc fini pour Diane Paris à 19 ans, mais on devrait la revoir dans les prochaines années, ça ne fait aucun doute. En tout cas, il n'y a pas de Française aujourd'hui en 8e de finale, et on va compter sur les 4 Français qui seront sur les cours demain.
Voilà, et on retient aussi aujourd'hui les qualifications prononciation facile hein, de l'espagnol Rafael Nadal et du serbe Novak Djokovic. Le sport, c'est aussi le football. Et Paris qui se plie en quatre pour accueillir demain la finale de la Ligue des Champions. Les dizaines de milliers de supporters anglais et espagnols qui vont débarquer dans la capitale. Deux fan zones, des écrans géants seront installés pour ne rien rater de ce Liverpool-Real Madrid au Stade de France. Il commence à y avoir un peu de stress, mais aussi un peu d'impatience chez ces jeunes joueurs de Saint-Denis tirés au sort pour ramasser les ballons sur le terrain, un moment dont ils se souviendront. Ajra Mohamed les a rencontrés.
Imaginez le Stade de France, 80 000 supporters survoltés et les meilleurs joueurs du monde qui entrent sur la pelouse, sur cette musique mythique.
La pression monte.
À 14 ans, Moussa fait partie des heureux élus choisis pour être ramasseur de balles. Il n'échangerait sa place pour rien au monde.
Bah parce qu'on est sur le terrain, on a un gros plan sur le terrain, on voit tout. Au lieu d'être tout en haut et voir les joueurs un tout petit, là on voit vraiment bien les joueurs.
Et toi tu veux voir quel joueur de près surtout ?
Benzema.
Karim Benzema, l'attaquant star du Real Madrid et des Bleus.
Bah Benzema il va mettre un triplé. Hein.
Je veux ton maillot.
Ouais, une paire de crampons.
Et qui sait, ces jeunes pourront peut-être lui demander directement, leur entraîneur leur annonce une autre bonne nouvelle.
Vous allez voir les joueurs s'entraîner normalement, vous pourrez rentrer dans les vestiaires.
Ouais,
vous serez vraiment au plus proche.
Pour Nassim Mekrouche, voir les jeunes de son club aussi heureux fait chaud au cœur.
La plupart des petits, ils ont jamais mis les pieds dans un stade. En plus là, c'est une finale de Ligue des Champions, c'est pas n'importe quoi. Il y a des places, les prix de départ, ça part vers les 500-600 euros. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre.
Hein. Et pour les photos, c'est le coach qui s'en occupe, promis.
Le téléphone, il sera chargé à 100%, tout est prêt.
En espérant voir ce samedi soir un beau match et surtout beaucoup de buts.
Reportage Ajra Mohamed, Liverpool-Real Madrid, c'est demain. Allez, on file à Cannes, dernière ligne droite du festival de cinéma et la dernière journée de compétition est 100% féminine. Montée des marches de la française Léonore Serrail et toute l'équipe d'Un Petit Frère. Et avant cela, la cinéaste américaine Kelly Reichardt qui a présenté son dernier film, Showing Up, l'histoire d'une sculptrice, Alexis Demeyer, qui cherche l'inspiration à l'approche d'une grande exposition à Portland.
Filmer une artiste lors de son processus de création, Kelly Reichardt s'est inspirée de la peintre canadienne Emily Carr pour construire le personnage de Lizzie, cette femme taiseuse et renfrognée qui s'exprime en sculptant. C'est dans sa ville de Portland que la cinéaste a posé sa caméra avec sa vision bien à elle du rêve américain.
En fait, l'Amérique n'est pas très gagnante, l'actualité le prouve. Je trouve que c'est un pays très sombre et c'est donc une idée stupide de penser que la réussite économique est synonyme de victoire. Pour moi, ce serait plutôt avoir un projet personnel, travailler pour le faire aboutir, ou bien avoir des proches avec lesquels se disputer tout en restant amis.
C'est la formidable Michelle Williams, habituelle complice de Kelly Reichardt, qui incarne Lizzie. Ce délicat portrait de femme libre tient aussi beaucoup aux soins apportés aux personnages secondaires.
On a juste essayé de comprendre comment filmer ces personnages en imaginant à quoi ressemblait leur journée. Par exemple, je connais très bien l'appartement de Lizzie parce que j'y ai moi-même séjourné. Je fais toujours ça, je passe du temps sur les lieux avant que toute l'équipe arrive. Ça m'aide beaucoup.
Car au-delà du sujet abordé, l'intérêt de Showing Up réside bien sûr aussi dans son rendu esthétique. Le sens du cadre de la reine du ciné indé est toujours aussi impressionnant, avec des couleurs pastels qui nous caressent les yeux.
Et parce que la gastronomie est aussi de la culture, le choix de la rédaction ce soir nous emmène dans les coulisses de la nouvelle cité internationale de la gastronomie et du vin qui vient d'ouvrir ses portes à Dijon. Le reportage est signé Isabelle Pasquier.
Dans l'ancien hôpital de la cité des Ducs de Bourgogne, on soigne désormais un art de vivre à travers la célébration du repas gastronomique des Français, décrété patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Avec humour, un petit théâtre nous met en appétit.
J'ai l'autre jour mangé un repas extraordinaire. 9 sous, 9 pâtés, 15 rôtis et pas moins de 28 sortes de poissons.
Bravo, quel estomac !
À l'intérieur de la cité gastronomique, des restaurants, une cave de dégustation de 3000 références et des expositions autour du repas gastronomique. Dominique Bucelato, la directrice du pôle culturel.
Ce repas gastronomique, il a été codifié par l'université de Tours. Il décrit l'ensemble du rituel du repas, l'enchaînement des mets, la spécificité française qui consiste à associer des mets à des vins particuliers, et puis le fait de le faire au travers d'un moment très convivial. C'est cette dimension de lien social qui est extrêmement importante. Et puis, dans un environnement aussi extrêmement soigné, c'est le repas que l'on met en place quand on a quelque chose d'important à fêter en France, qui marque des étapes de la vie.
À la Cité de la Gastronomie, une exposition sur les climats de Bourgogne, 1200 climats, des parcelles de vignobles qui donnent chacune un vin unique. Car boire du vin de Bourgogne, c'est boire de la géologie, 2000 ans d'histoire, de savoir-faire et aussi boire de l'imaginaire.
Un grand merci à Loïc Frapsos et Louis Audebert, aux manettes des journaux cette semaine. Et n'oubliez pas d'écouter le reportage coulisses d'Isabelle Pasquier sur la Cité de la Gastronomie et du Vin à Dijon demain, 8h-10. Il y a aussi un savoureux quiz, hein, je vous le conseille, sur franceinter.fr.
Et à consommer avec modération, c'était le journal d'Hélène Philly. Merci Hélène. La météo dans un instant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Du soleil ou presque pour tout le monde demain.
Oui, la journée s'annonce globalement largement ensoleillée sur la majeure partie du pays. Alors en début de matinée, il faudra quand même composer avec quelques grisailles entre la Bretagne et la Normandie, dans les vallées et les plaines d'Auvergne-Rhône-Alpes, ou entre les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Pays Basque. Ces nuages bas s'effaceront plus ou moins rapidement au profit du soleil. Le ciel sera un peu plus changeant entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Quelques averses pourront même border les frontières entre les Ardennes et le nord de l'Alsace. Et puis sur le relief des Alpes du Sud et de la Corse, des nuages vont bourgeonner l'après-midi et devenir menaçants jusqu'à donner naissance à des averses localement orageuses. Les nuages pourront glisser vers les côtes, mais le risque d'averse concernera essentiellement les hauteurs. Les températures maximales seront en légère baisse, 15 à 23 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 28 degrés plus au sud, avec 26 à 32 degrés autour de la Méditerranée.
Oui, quand même. Et pour dimanche, Sébastien ?
Eh bien, le soleil sera toujours omniprésent, voire omnipotent. Entre la Normandie et les Hauts-de-France, le bassin parisien et le Grand Est, le ciel alternera entre belles éclaircies et paquets nuageux, avec même quelques petites averses possibles. Des averses se développeront aussi sur le nord de la Corse et les Alpes du Sud. Et puis des orages pourront éclater vers les Pyrénées. Et la baisse des températures amorcée la veille va se poursuivre avec 14 à 21 degrés sur la moitié nord, 20 à 29 degrés plus au sud. Et puis que ce soit samedi ou dimanche, le Mistral et la Tramontane souffleront assez fort.